Vacances, le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Cinérama, saison estivale.
Y'a du soleil, y'a des nanas, na-la-di-la-na.
Cinérama l'été.
On va s'enfourrer jusqu'à là, na-la-di-la-na-na.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Cinérama l'été, on se passe de l'actualité.
Eh bien, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme je m'étais imaginé.
C'est une blague.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, 30 minutes pour parler cinéma. Et cet été, eh bien, nous avons prévu de faire deux séries et nous arrivons au terme de ces deux séries. L'une concernait les bandes originales de films et puis l'autre concernait Marcel Pagnol. Et tu vas la conclure.
Oui, je vais vous parler de ce que je considère de manière très exhaustive, hein, l'héritage de Marcel Pagnol.
Et moi, je vais conclure la série sur les bandes originales de films. Alors, on jouait un blind test et là, il va falloir découvrir les musiques additionnelles les plus utilisées au cinéma. Bon, c'est des statistiques que j'ai trouvées. Alors, je ne sais pas si elles sont tout à fait exactes, mais en tout cas, on jouera à cela. Et puis, il y a aussi une partie actualité dans Cinérama et c'est toi qui vas t'en charger.
Je vais vous parler de The Ritual, le film d'exorcisme avec Al Pacino.
Mais on commence par le jeu, c'est parti.
Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Alors, dernière émission de l'été de Cinérama. Donc dernière émission autour des bandes originales de films, du blind test consacré à cela. Et pour terminer cette série, eh bien, je vais la détourner, hein, puisque nous allons non pas parler de bandes originales, mais de musiques additionnelles. Elles sont effectivement très courante au cinéma. Il y a certains films qui sont extrêmement reconnaissables, je pense notamment à Pulp Fiction et Tarantino. Sans les musiques additionnelles, ce n'est plus vraiment Tarantino. Et donc je me suis amusé à rechercher en fait les musiques additionnelles qui étaient les plus utilisées au cinéma. Et donc ça va être cela, ce blind test. On va commencer par le morceau qui visiblement est le plus utilisé au cinéma. On écoute tout de suite.
This is how we do it. It's Friday night and I feel alright. The party's here on the west side, so I reach for my 40 and I turn it up. Designated driver, take the keys to my truck. Hit the shop cause I'm faded. Honey's in the streets, say money, yo, we made it. It feels so good in my hood.
Alors, ça.
Et apparemment, il y avait beaucoup d'utilisation dans les années 90.
Alors, il est au moins répertorié dans 52 longs métrages, ce qui est pas rien. J'avoue que je me suis dit sûrement je l'ai écouté, puisque les films dans lesquels il y a Pitch Perfect 2, il y a Sonic 2, il y a Step Brothers.
Oui, titre. Les musiques entre guillemets d'ambiance, de fête, générique, à l'esprit années 90.
Et donc c'est Montel Jordan, This Is How We Do It. Et c'est un morceau emblématique donc des années 90, avec un groove R&B, effectivement, des paroles festives. Et il est souvent utilisé dans les comédies ou les films qui mettent en scène des soirées, des retrouvailles ou des scènes de relâchement total. Voilà. Donc, c'est le
surprenant,
film...
Surprenant, mais c'est ça.
Oui, très étonnant. Alors là, ça va être plus simple, je pense, pour vous, chers auditeurs.
Thank you.
là c'était plus simple effectivement. Trouver.
Ouais, bah, c'est les Stones, hein. C'est Gimme Shelter. Hein.
Et oui.
Et j'ai envie de dire avec Sympathy for the Devil, c'est un petit
Bah, il n'était pas dans le top 5. En tout cas, celui-ci a utilisé Gimme Shelter au moins 45 fois dans
tous les films américains, les films américains qui se passent dans les années 70 où on veut donner un côté mystérieux avec de la drogue, sur Scorsese en particulier. Hein.
Et oui, c'est effectivement très utilisé dans le cinéma américain et de Scorsese. Gimme Shelter sert souvent donc à souligner des moments de tension, de montée dramatique ou de bascule dans la violence. Sa construction progressive, son urgence vocale et son ton menaçant en font un morceau idéal pour accompagner des scènes de chaos urbain, de guerre ou même de corruption. Il est présent dans Goodfellas, Casino, The Departed, peut-être dans tout, non pas dans tous, mais dans de nombreux films de Scorsese. Allez, troisième extrait. Bon, le morceau va être facile à deviner, mais il faudra me citer au moins un titre de film.
C'est Back in Black d'ACDC.
Oui, facile.
Le plus vendu de tous les temps d'ailleurs.
Est-ce que tu auras un type de film
Je sais qu'il avait été utilisé pour la. Ben, c'est en cool à l'actualité de cette année. Ça avait été utilisé pour la bande-annonce de Lilo et Stitch, mais la version animée de l'époque. Donc c'est pour ça que la bande-annonce m'avait marqué. Et ça a été utilisé entre autres chez Marvel pour Iron Man.
Tout à fait, voilà. Il m'en fallait un. Et il y a School of Rock de Muppets. Il a été utilisé, alors un peu comme les Rolling Stones, au moins 45 fois au cinéma.
À noter que si vous aimez le cinéma et ACDC, Stephen King, pour sa seule réalisation, qui n'est pas brillante mais qui est très drôle, il s'appelle Maximum Overdrive, a fait venir ACDC pour faire une BO complète du film. Mmh. C'est la seule BO qu'a fait intégralement ACDC.
D'accord. Bah, merci pour ce détail. À noter que Back in Black, morceau de hard rock, donc est souvent associé à des personnages puissants, provocateurs, en plein retour triomphal. Il marque des entrées remarquées ou des montées en puissance. Morceau très connu. Un nouvel extrait d'une musique additionnelle utilisée au moins dans 40 longs métrages. C'est parti. C'est trouvé, Guillaume.
Oui, c'est The Spirit in the Sky de, je ne sais plus,
Norman
qui.
Greenbaum.
Et pareil, hein, les films où on prend de la drogue, où il faut une certaine idée de la liberté, y en a beaucoup.
Mais il n'y a pas que ça.
Beaucoup d'utilisation dans le film américain.
Il y a des sonorités psychédéliques dans ce morceau, il y a des faux airs de gospel, et donc ça a souvent été repris dans des films pour accompagner des départs, des transformations ou des moments ironiques qui fonctionnent notamment dans les films qui jouent sur un mélange entre spiritualité et second degré.
Ce qui est marrant,
c'est le cas d'Apollo 13. Ou Les Gardiens des Galaxies. Voilà.
Si je me trompe pas, c'est marrant parce que mine de rien, c'est une musique premier degré. Hein. C'est littéralement une chanson chrétienne en fait, de rock chrétien.
Mmh. Ah oui, d'accord.
Donc le côté newborn, il est là dans tous les cas, mais effectivement, comme tu l'as cité, c'est plus utilisé de manière ironique.
Allez, dernier extrait de ce blind test, un morceau utilisé là encore dans 40 longs métrages. Get
comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns to constant, explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and what's in. Explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be
Alors, c'était facile.
Ouais, c'est le groupe, c'est Steppenwolf. Ouais. Le morceau, c'est
Born to be Wild.
Born to be Wild. Et c'était pour la BO d'Easy Rider.
Oui.
À noter que, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on entend les termes de heavy metal dans l'un des couplets.
Ah. Et donc, ce morceau, effectivement, est né de Easy Rider et c'est devenu le symbole de la liberté, de la vitesse et de la rupture avec l'ordre établi. Et donc sa présence dans un film évoque immédiatement l'idée de la route, du mouvement ou d'un esprit rebelle. On l'entend aussi dans Paddington. Est-il rebelle, Paddington?
Bah, il est au Pérou, alors.
Pas. Voilà. Ainsi s'achève donc ce blind test consacré aux musiques additionnelles les plus utilisées au cinéma. On se quitte avec une bande sonore d'un film qui a marqué tout le monde et d'un réalisateur qui a énormément utilisé les musiques additionnelles, c'est Quentin Tarantino. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and gin. Chuck Berry dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino, devenu très célèbre. Et nous allons passer maintenant à la deuxième série de l'été dans Cinérama. C'était celle consacrée à Marcel Pagnol et tu la clôtures aujourd'hui.
This is Cinérama.
Et ça c'est clair.
Alors les écrits, hein, mais aussi le cinéma de Marcel Pagnol ne se sont pas limités qu'à la production chaperonnée par son propre auteur. Son œuvre aux thématiques universelles a eu des adaptations dans différents pays, mais a aussi inspiré de près ou de loin plusieurs autres grands artistes ou grandes œuvres. Alors je vous propose en conclusion de cette saga de l'été de faire un petit tour très sélectif de cet héritage pagnolesque qui va parfois, j'en suis sûr, vous étonner. Tout d'abord, Pagnol a bien sûr eu des admirateurs dans son propre pays qui ont voulu retranscrire à leur manière l'émotion procurée par ses textes. Alors je pense que vous connaissez tous Jean de Florette et Manon des Sources, une nouvelle adaptation menée en 86 par Claude Berry, mais aussi l'autre diptyque, La gloire de mon père et Le château de ma mère en 90 par Yves Robert. Alors Daniel Auteuil, à l'affiche de Jean de Florette et Manon des Sources, tout en restant acteur, passe également derrière la caméra pas moins de 3 fois pour de nouvelles versions de La fille du Puisatier en 2011, puis de Marius et Fanny en 2013. En 2022, c'est Christophe Baratier Moitié qui adapte le troisième tome des souvenirs d'enfance de Pagnol avec Le Temps des Secrets. Le Schpounz a été lui aussi remaké en 99 par Gérard Oury avec Smaïn, Sabine Azéma et Tiki Olgado, mais en dépit des bonnes volontés derrière l'œuvre, nous sommes loin de l'émotion procurée par Fernandel et c'est un échec commercial assez compréhensible pour un Gérard Oury très fatigué.
Il était une fois dans un petit village de Provence un humble commépicier bourré de complexes.
Ça veut dire que je suis un bon à rien. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout.
Mais animé de passion folle pour le cinéma.
Vous tournez un film par ici, monsieur Dame?
Pas encore, on en prépare un.
Et vous cherchez quoi, des acteurs?
Son rêve, c'était d'être comédien.
Oui, Lino Ventura était catcheur, Fernandel employé de banque, Harrison Ford charpentier.
Alors épicier, c'est pas un obstacle?
Moi je vous dis que c'est un Schpounz.
Vous n'allez pas recommencer vos conneries.
Mais non, c'est marrant, ça marche à tous les coups.
C'est quoi un Schpounz?
Le Schpounz, le dos c'est lui,
le profil aussi.
Il a véritablement la tête du Schpounz.
Il veut tourner le Schpounz.
Et le Schpounz, c'est moi.
Et qu'est-ce que c'est ça, le Schpounz?
En plus, ils vous ont dit que vous étiez un Schpounz?
Pas un Schpounz, le Schpounz.
Mais Pagnol, c'est aussi une grande histoire d'amour à l'étranger. Alors, je commence par la célébrissime trilogie marseillaise, Marius, Fanny et César. Alors, si Marius a vu ses adaptations allemandes et suédoises tourner en même temps que le film d'Alexander Korda et que Fanny a connu un remake allemand en 1934, il est bon de noter deux versions étrangères détonnantes. Eh bien, la première est Port of Seven Seas, soit le port des sept mers, aux États-Unis en 1938, par rien de moins que James Whale, l'illustre réalisateur de Frankenstein, La fiancée de Frankenstein, La maison de la mort et L'homme invisible. Il a la tâche difficile de résumer en 1h30 à peine l'intégralité de la trilogie, mais avec des pointures comme Frank Waxman à la musique et l'impérial Karl Freund à la photographie, eh bien pourquoi pas. Il faut noter aussi qu'en 1942, il y a un film qui s'appelle, entre la traduction, Le port aux mouettes, c'est de Yasuki Shiba, c'est un remake japonais de Marius. Hein, voilà.
Work tires no one. What tires one is laziness, the mother of all vices. And children, while we're about it, let us remember that
there is no profit in little games.
Good. And that
money does not bring happiness.
Excellent, excellent.
Topaz, lui non plus, n'est pas resté confiné à la France, parce qu'en 1961, Peter Sellers, oui, vous savez, le célèbre inspecteur Clouseau de La Panthère Rose, décide de réaliser et d'interpréter sa propre version, qui sera son unique réalisation de long métrage pour le cinéma. Le Topaz de Sellers, rebaptisé Monsieur Topaz, Mr. Topaz, devient un instituteur anglais plongé dans une satire du capitalisme et de l'hypocrisie morale à l'anglaise. Le ton change, l'humour devient plus pince sans rire, mais le fond reste exactement le même. Comment l'honnêteté peut devenir une faiblesse et comment le pouvoir corrompt même les plus vertueux. Alors derrière ces racines provençales, derrière l'influence de Molière ou de Zola, on comprend que pour les anglo-saxons, on peut y voir du Chaplin ou du Lubitsch, ce qui en dit beaucoup sur l'universalité du propos originel. A noter que Topaz a déjà eu une version américaine en 1933, signée Harry Dabdi Darast, avec le légendaire John Barrymore, rien de moins que ça, dans le rôle titre.
C'est extrêmement intéressant, toutes les nouvelles vagues sont intéressantes d'ailleurs. C'est une chose indispensable. Ces jeunes gens-là, Truffaut, Alain René, Chabrol, viennent de donner vraiment un coup d'éperon au cinéma qui s'endormait, on ne faisait plus rien. Et les films qu'ils ont faits sont bien loin de manquer d'intérêt. Évidemment, on a peut-être crié trop fort au chef-d'œuvre, et ces jeunes gens feront certainement beaucoup mieux. C'est une chose très importante.
On peut dresser également une petite liste de réalisateurs similaires ou d'inspiration pagnolesque, plus que de réels adaptateurs. On pourrait citer le cinéma de Jean Becker, avec Les Enfants du Marais ou Dialogue avec mon jardinier. On peut penser au Marseillais, Robert Guédiguian, avec bien sûr Marius et Jeannette, même si, personnellement, je avoue que je n'aime pas du tout son style et ses personnages, que je trouve assez vulgaires et sans poésie par rapport à justement ce que fait Pagnol avec Les gens du peuple. On peut parler également de certains films du néo-réalisme italien, comme Le voleur de bicyclette d'Ettore Scola, ou du cinéma d'Ozu, très souvent tourné vers la famille et la simplicité. Et c'est sans oublier un certain cinéma indépendant américain, et moi je pense surtout à celui de Richard Linklater. On prend un film comme Boyhood et son temps qui passe, avec ses joies, ses dilemmes et sa philosophie du quotidien. Moi j'ai envie de dire que ça n'a rien à envier à la trilogie marseillaise, par exemple.
Et est-ce que Marcel Pagnol, pour terminé, ce serait votre mot de la fin, si l'on voulait conclure et mettre, disons, une maxime sur votre œuvre, eh bien, c'est l'amour des humains, des autres, qui caractériserait votre tempérament.
S'il est possible de le faire, ce sera un grand honneur pour moi.
Merci Marcel Pagnol.
Eh bien, merci Guillaume pour nous avoir fait partager tout au long de cet été, eh bien, une partie au moins de la filmographie de Marcel Pagnol. Et à noter qu'il y aura une grosse actu pour Marcel, enfin, entre guillemets, pour Marcel Pagnol.
Oui, bah, c'est qu'en fait, le dernier film d'animation de Sylvain Chaumet, qui s'appelle Marcel et Monsieur Pagnol, qui sort en octobre et qui a déjà fait de très gros festivals, était assez remarqué.
Oui, notamment, il a fait Cannes et Annecy, ce qui fait partie des gros festivals, effectivement. Et si nous faisions une rediffusion d'un des nombreux blind tests de Cinérama, c'est ce qu'on vous propose maintenant.
Vous avez tous lu ou entendu parler des enregistrements
Cinérama.
Mais peu savent exactement ce que signifie cette formule.
Rediffusion.
Jouer au blind test avec la filmographie de Ron Howard, qui n'est pas tout à fait excellente. Mais voici donc un premier film facile.
On écrit l'information sur un papyrus que l'on enroule autour d'une fiole de verre très fin, emplie de vinaigre. Si on l'ouvre en forçant, la fiole se brise. Le vinaigre dissout le papyrus et le secret est perdu à jamais. Le seul moyen d'accéder à l'information est de composer le mot de passe au moyen de ces 5 bagues, comportant chacune 26 lettres, soit 12 millions de possibilités.
Jamais rencontré de jeune fille aussi pointue en matière de cryptex.
Eh oui, et donc ça a été trouvé, Marine.
C'était Audrey Tautou là qu'on entendait, qui parlait comme une enfant de 12 ans.
Oui.
Mais c'était Da Vinci Code.
Oui, j'ai cru que c'était les Goonies en me rappelant que c'était pas
c'était
du
pas
tout.
Lui. Non, c'est pas Ron Howard.
Ron Howard et Richard Donner.
Deuxième extrait de ce blind test.
Il faut revoir Adam Smith.
Mais de quoi est-ce que tu parles?
Si on attaque tous la blonde. On se fait tous obstruction. Et personne ne se la fait. Alors on se rabat sur ses copines. Et elle nous envoie valser parce que personne n'aime être un deuxième choix. Mais si personne n'attaque la blonde, on ne se court-circuite pas les uns les autres, on n'insulte pas les autres filles. C'est le seul moyen de gagner. Le seul pour s'en faire une chacun.
Voilà, mathématicien schizophrène, ça a été trouvé.
Un homme d'exception.
Voilà, tout à fait.
La c'est théorie beau, de la blonde. Oui, cette théorie adaptée au concept de la drague, c'est très romantique.
Ben, il adapte Adam Smith à la drague, effectivement. Si personne ne va vers la blonde, alors à ce moment-là, on a toutes ses copines. Eh oui.
Hey. Ouais,
vous repartez pas sans rien en écoutant Cinérama. Troisième extrait.
Après 5 courses. Comment ça va pour toi?
Très bien. Sauf un léger problème avec un rat autrichien et son équipe de tricheurs italiens qui m'ont ruiné ma bagnole.
De quoi est-ce que tu parles?
Je parle du Grand Prix d'Espagne que j'ai remporté.
Ouais, au volant d'une voiture illégale.
15,9 mm trop large, tu sais bien que ça n'a aucune incidence sur la vitesse. Et tu as contesté, tes avocats ont fait pression sur les autorités, on a été obligé de tout reprendre à zéro et la voiture est devenue un monstre.
Mais un monstre réglementaire.
Ton seul recours était de tricher.
C'est toi qui as une voiture illégale et c'est moi le tricheur? C'est vraiment tragique. La loi, c'est la loi.
Certes. Et un rat sera toujours un rat. Merci, salut.
Eh oui, le bel anglais avec...
Et le machin allemand.
Non, autrichien. Niki Lauda, James Hunt, ça a été trouvé. C'est la saison 76 de Formule 1.
C'était Rush, un film que j'avais surprenamment beaucoup aimé.
Eh bien, c'était effectivement plutôt excellemment bien filmé et bien rendu, hein, parce que c'était un championnat vraiment particulier. Quatrième extrait.
L'ESSEC sera placé sous le commandement de George Pollard, qui descend d'une grande lignée de baleiniers. Il se trouve aussi que son père est notre affréteur.
Question de sang, monsieur Chase. Vous aurez beau avoir 1000 campagnes à votre actif, le sang aura toujours le dernier mot.
D'accord, mais ce n'est guère le sang qui remplira le navire d'huile, monsieur Nelson. Pour commander, il faut se faire respecter. Et si les hommes n'ont aucun respect pour lui?
Ce sera à vous de faire en sorte qu'ils en aient.
Oh, je vous dis adieu, messieurs.
Je comprends votre déception. Alors, un 15e du produit net.
Ça fait beaucoup. Ça a été trouvé, Manu. Alors,
c'est au cœur de l'océan.
Oui, l'avant-dernier film de Ron Howard, qui a été pas du tout un succès. Ça a même été un gros bide, avec Chris Hemsworth, et qui reprend l'histoire de Melville, qui on raconte l'histoire de l'Essex, qui donnera plus tard Moby Dick. Dernier extrait, très facile.
Une fois qu'ils auront contourné la Lune, on allume le moteur du LEM, on produit une longue poussée, on prend le maximum d'élan, et on les ramène aussi vite qu'on peut.
Jim, j'aimerais savoir ce que les mecs qui ont fabriqué le LEM en pensent.
On ne peut absolument rien garantir. Le LEM a été conçu pour se poser sur la Lune, pas pour faire des corrections de trajectoire.
Je sais bien. Mais on va pas se poser sur la Lune, malheureusement. Je me fiche de savoir pourquoi sont conçues les choses. C'est ce qu'elles peuvent faire qui compte.
Alors, ça a été effectivement trouvé parce que c'était facile.
Bah, c'était Apollo 13, évidemment.
Voilà.
This is Cinerama. Cinerama.
C'était un blind test tiré de la longue histoire de l'émission Cinerama. On termine Cinerama avec la partie actualité, les films qu'on retrouve dans les salles, au moins un film, c'est The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt qui revisite un célèbre cas réel de possession dans une plongée terrifiante au cœur du mal. C'est Guillaume qui nous en parle.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
Cinérama.
Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Merci.
En 1928, Emma Schmidt est admise dans un couvent reculé du Midwest américain. Alors très vite, les phénomènes inexpliqués se multiplient. Le prêtre Joseph Steiger fait alors appel à un exorciste reconnu, un Telophius Riesinger, pas facile à prononcer. Ces deux prêtres, l'un en remettant en question sa foi et l'autre devant faire face à son passé, doivent mettre de côté leurs différences pour sauver une jeune femme possédée à travers des exorcismes. Alors ce dossier basé sur une histoire vraie a été longtemps tenu secret par l'Église. Oui, le pitch est exactement le même que l'exorciste de William Friedkin. Tous les fantasticophiles le savent que trop bien, le film de Friedkin a inspiré du très efficace roman de William Peter Blatty lui-même basé sur des faits réels et depuis plus de 50 ans le film matrice de ce genre de récit. Il a été copié des centaines de fois et continue d'inspirer toute une production horrifique qui a du mal à s'éloigner de ce modèle en apparence incontournable. Un peu comme les films mettant en scène des attaques de requins qui n'arrivent jamais à trouver de nouvelles idées, en tout cas loin de celles de Spielberg et de ses Dents de la Mer. Il n'y a guère que l'Espagnol Paco Plaza avec son excellent Véronica en 2017 qui avait su traiter ce sujet avec terreur certes, mais aussi tragique et humanité sans copier les tropes friedkiniens. Alors ici, hein, on retrouve le décompte par rituel, modification physique, lecture de psaumes, insultes blasphématoires, vomissements de purée de pois vert, literie malmenée, c'est épuisant.
C'est une guerre et nous sommes l'armée de notre Seigneur. J'aurais besoin de 3 autres personnes dans la pièce, à mes côtés.
Comme absolument tous les films d'exorcisme, il y a un carton d'introduction qui nous annonce que ce récit est inspiré d'événements réels. Alors dans ce cas précis, il s'agit même de l'un des plus célèbres. The Ritual s'inspire en effet d'un véritable exorcisme qui s'est déroulé aux États-Unis en 1928. Donc Emma Schmidt, qui avait pris le pseudonyme d'Anna Eklund, est encore à ce jour le cas d'exorcisme le plus documenté de l'histoire américaine. Pour dire l'intérêt qu'il a suscité, il a même fait l'objet d'un article dans le magazine Times en 1936, qui n'est pas rien. La prétendue possession démoniaque Emma Schmidt et ses nombreux exorcismes se sont déroulés sur plusieurs décennies, cumulant avec un exorcisme intensif qui a duré du 18 août au 23 décembre 1928 dans l'Iowa. Alors la jeune femme aurait présenté des symptômes de possession dès l'âge de 14 ans. Elle avait 46 ans lors de son exorcisme final par le père Riesinger. Si les lieux ne changent pas, la chronologie pour les besoins dramatiques du film, elle, est resserrée. Le problème factuel de The Ritual, c'est qu'il a décidé d'utiliser la caméra portée à l'épaule pour donner un aspect documentaire à l'entreprise. Cette vision désormais au-delà du cliché n'est pas seulement fatigante par sa fainéantise, mais elle est également fatigante pour nos pauvres yeux. The Ritual, dès sa première image, est immonde, purgé de toute grammaire cinématographique et donc de goût. On a l'impression d'être revenu aux heures les plus sombres du cinéma des années 2000, pollué par l'inanité de la non-mise en scène de Paul Greengrass.
Il faut arrêter.
Restez où vous êtes.
Quel que soit ce que vous avez essayé de faire, c'est un échec.
Nous devons continuer. Nous ne pouvons pas abandonner Emma. C'est le seul moyen, croyez-moi.
La seule nouveauté, si on peut dire, apportée ces dernières années est que ce genre épuisé est devenu le refuge d'acteurs autrefois prestigieux, venus sûrement payer leurs factures en enfilant une soutane et prenant l'air concerné à moindre frais, un peu comme à la grande époque du cinéma bis italien des années 70. Alors on a eu Russell Crowe, rappelez-vous, dans les très amusants L'Exorciste du Vatican et The Exorcism, où il chassait des manifestations du diable en Vespa, et ben, il y a maintenant Al Pacino, dont on se demande bien ce qu'il est venu faire dans cette galère. Alors on rigole en pensant à sa carrière, car on se souvient bien que Pacino avait incarné lui-même le diable dans L'Associé du Diable de Taylor Hackford en 97. En 2025, le voilà qui l'affronte en même temps que le fisc américain sûrement. Bref, Satan la bite et surtout ses choix de carrière.
En tout cas, si vous avez quand même envie d'aller voir ce film, L'Exorcisme d'Emma Schmidt, sachez qu'il est dans les salles.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne connais pas la réponse moi-même.
Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie.
C'était la dernière émission de l'été pour Cinérama. Cinérama revient, mais il traitera eh bien, cette fois-ci complètement de l'actualité. Tout ce que vous allez retrouver dans les salles à partir du mois de septembre. À la semaine prochaine.